Parfait. Donc, je vais débuter avec les présences. Donc, Monsieur Sartorois. Monsieur David Christopher.
Présent.
Monsieur Jean-Yves Turmel.
Présent.
Monsieur Luc Dion.
Présent.
Monsieur Yvon Dumont.
Présent.
Monsieur Yves Turgeon.
Présent.
Monsieur Martin Lacasse.
Présent.
Madame Guylaine Aubin.
Présente.
Monsieur Sébastien Bourget.
Présent.
Madame Manon Goulet.
Présente.
Monsieur Germain Caron.
Présent.
Monsieur Martin Gicoté.
Présent.
Monsieur Bernard Morin.
Présent.
Monsieur Denis Laflamme.
Présent.
Monsieur Éric Tessier.
Présent.
Monsieur Jacques Bruneau.
Présent.
Monsieur Pascal Fournier.
Présent.
Monsieur Daniel Pouliot.
Présent.
Monsieur Gilles Breton.
Présent.
Et Monsieur Christian Lacasse.
Présent.
Merci.
Alors, bonsoir tout le monde à cette rencontre de l'adoption du budget et de d'autres dossiers. Or, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce que des ajouts, sinon une proposition d'adoption? En levant la main. Éric et Martin J. Procès verbal de la réunion du 20 octobre. Vous l'avez reçu. Questions, commentaires ou adoption? Pas de questions, pas de commentaires, adoption. Qui propose? Jean-Yves et Martin Lacasse. Même chose pour les comptes. Bon. Luc avait une question? Luc, non seulement ta voix se dédouble, mais ta face se dédouble. OK.
Excusez.
Et t'avais-tu une question? Il arrive de la stratosphère. C'est bon. Avais-tu une question, Luc?
Non. Excusez-moi. J'avais deux appareils en fonction, là, puis ça n'a pas bien été, on dirait.
OK. C'est beau. Donc, même principe pour les comptes et recettes. Des questions, commentaires ou adoptions?
C'est beau.
Appuie, Yvon.
Qui propose? Denis et Yvon. Rencontre, on n'en a pas. Période de questions. On a reçu une question par courriel dont je vous fais la lecture. Question pour le Conseil des maires du 25 novembre 2020. Une demande a été adressée au comité du DEB de la MRC de Bellechasse pour la formation d'un comité de citoyens, gens d'affaires et autres, afin de travailler sur le dossier du troisième lien, car nous, gens d'affaires, considérons ce dossier très important pour l'avenir de Bellechasse. Cette demande a été refusée. Ma question au Conseil des maires est la suivante. Est-ce que le Conseil des maires approuve cette décision et pourquoi? Étant donné l'importance de ce dossier, j'aimerais que la réponse soit donnée sous forme de résolution du Conseil des maires. Donc, on a une première chose à faire, lui donner une réponse, puis à savoir, est-ce qu'on doit le faire par résolution? C'est une autre décision qu'on aura à prendre. La première, c'est de dire que la question qui nous est soumise n'est pas de notre ressort, puisque le dossier... La demande qui a été formulée l'a été auprès de DEB, qui est un organisme sans but lucratif avec son propre conseil d'administration. Alors, la MRC ne peut pas approuver une décision qu'on ne connaît pas, puisque cette décision-là n'a pas été transmise dans un premier temps à la MRC. Et la question ou la recommandation qui a été faite à l'organisation de même. Alors, la question qui nous est posée, je vous le répète, c'est de dire, est-ce que vous approuvez la décision de DEB? Et compte tenu que nous, on n'est pas au courant de la décision qui a été prise, ni la demande formulée, on ne peut pas se prononcer à savoir si on est favorable ou pas. Or, M. Michel Bonneau, qui pose la question, devrait peut-être nous demander quelle est notre position comme conseil s'il désire que la MRC se penche sur ce dossier-là du troisième lien. Est-ce que le conseil est en accord avec la réponse qu'on donne à M. Bonneau?
Oui. Oh oui.
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 Oui. Bon. Est-ce que c'est nécessaire de faire une résolution là-dessus, étant donné qu'on n'a pas de décision à prendre sur la demande qui nous est formulée? Je pense que notre décision, elle a été enregistrée. M. Bonneau va avoir accès à notre séance de conseil et il va obtenir la réponse souhaitée. Et quand on pose une question au conseil, l'objectif, c'est d'obtenir la réponse. Et je pense que je viens de lui formuler la réponse qui va de soi avec la demande qui nous est formulée. Ça vous va?
Oui. C'est bien. C'est bien.
C'est bon. Parfait. Fait qu'on passe au point aménagement et urbanisme. Avis de conformité, Annick.
Oui. Alors, bonjour tout le monde. Donc, premier avis de conformité qui nous, dans le fond, c'est pour le règlement numéro 456 qui modifie le règlement de zonage numéro 60 de la municipalité de Saint-Anselme.
Propose.
Sébastien.
Merci. Je vais enchaîner.
Oh, oui.
Donc, parfait, merci. Donc, je vous amène au second point en lien avec l'aménagement et l'urbanisme, en lien avec le point PADF, donc Programme d'aménagement durable des forêts au niveau de l'octroi des montants 2019-2020 et 2020-2021 au projet de réfection de la voirie multi-usage au parc régional du Massif du Sud. Donc, la résolution est pour tenir compte d'un changement de projet toujours géré par la MRC des Aides-Chemins, mais qui se fait au niveau du parc régional. Donc, plutôt que de réaliser un projet de réfection de la route d'accès au panorama, ça serait plus au niveau du sentier H qui est situé à l'intérieur du parc régional du Massif du Sud sur le territoire de la MRC de Bellechasse, mais que c'est un projet qu'on fait conjointement avec la MRC des Aides-Chemins. Donc, ça serait d'octroyer les montants disponibles dans les enveloppes 2019-2020, donc 12 004,41 $, et l'enveloppe 2020-2021 du PADF de 3 560 $, justement pour la réfection et les interventions d'entretien là, au niveau du sentier H.
Je le propose, Guylaine.
J'appuie, Sarto.
8.1, vas-y tout de suite, Annick.
Donc, 8.1, donc je céderai la parole là, à David Laurent-Géking pour les points concernant la matière résiduelle.
Merci. Alors, allons-y, David.
Merci, Annick. Merci, Clément. Donc, au niveau des matières résiduelles, vous avez vu en 8.1, dans le fond, c'est une confirmation d'embauche d'un candidat, parce que vous voyez que dans la correspondance, là, il y avait des documents dont la lettre en gestion des matières résiduelles, dont la lettre de démission là, de notre coordonnateur qu'on avait engagé. Son séjour avec nous aura été bref. Ne serait-ce qu'une semaine. Finalement, il a trouvé un autre emploi. Là, ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça là, dans cette circonstance-là. Par contre, comme vous le voyez là, dans le projet de résolution, essentiellement, là, on a procédé dans notre banque de candidature suite à aux entrevues avec le deuxième candidat, dans le fond, là, qui était le, si on peut dire, là, le mieux placé. Puis ça reste que c'est dans le projet fort, hein, donc ce n'est pas une embauche directe à la MRC, mais c'est un contrat de travail. C'est un projet qui est en collaboration avec la MRC des Aides-Chemins et la SADC. Donc, le comité là, a procédé à la révision et recommande là, de remplacer, là, dans le fond, là, M. Plourde par M. Malcolm Savard à titre de coordonnateur en économie circulaire. Comme je vous le disais, c'est un salaire annuel de 50 000 $ sur une base contractuelle
pour une charge de travail de 4 jours. Et c'est ça, dans le fond, c'est M. Savard, c'est un ingénieur. Donc, ça faisait partie du profil recherché là, pour ce type d'emploi. Donc, c'est un ingénieur, je crois, qui est en génie mécanique, par contre, et il demeure à Saint-Néry. Donc, c'est un résident de Saint-Néry. Puis, si tout va bien avec votre recommandation, son entrée en poste pourrait se faire dès le 30 novembre prochain.
Vous êtes d'accord avec la proposition? Qui propose?
Oui. Yves Turgeon.
Puis Yvan. Seconde.
Yvan.
Yvan a secondé. 8.2, adoption des tarifications GMR 2021.
Oui, donc en lien avec les prévisions budgétaires que vous allez adopter lors d'un point subséquent là, dans la section administration au niveau GMR, on a changé notre procédure là, suite à la demande de l'année dernière. Donc, on s'est assuré que les tarifs de gestion de matières résiduelles sur lesquels on fait nos hypothèses budgétaires sont connus et que vous les aurez adoptés la même séance que le budget. Donc, comme vous le voyez, dans le fond, les tarifs de GMR de 2021, essentiellement, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns. Donc, pour les transports, les tarifications, excusez-moi, du service de collecte, là, notamment pour les municipalités, on a les collectes et transports des contenants transrouillés pour les écocentres municipaux. C'est un tarif qui va être à 300 $ par collecte de conteneurs. Lorsqu'on va avoir des demandes pour des contenants roll-off fournis dans le cadre des travaux, que ce soit pour une municipalité ou d'autres clients, on peut en fournir lorsque les conteneurs sont disponibles. À ce moment-là, ça sera 400 $ de la collecte. À cela s'ajoute le tarif de traitement correspondant, dépendamment de la matière qu'on aura à traiter. Vous voyez aussi que le seuil minimum des collectes supplémentaires pour les contenants métalliques, si on parle des camions finalement à chargement latéral, donc les conteneurs métalliques passent à 25 $ pour une collecte ponctuelle. Et de la même façon, lorsqu'on doit faire un crédit, il n'aura pas de crédit pour une somme de 25 $ ou moins. Là. Donc, ça, c'est juste pour une question de saine gestion administrative. Au niveau des tarifications du service de traitement, on a le tarif d'enfouissement qui va passer à 150 $ la tonne métrique à l'entrée du site. Ça comprend les deux redevances gouvernementales là, qui vont être fusionnées cette année, là, qui correspondent à peu près à 23 $ du tarif, mais ça, c'est tout inclus. Donc, le 150 $ que vous voyez est il inclut tout. Vous voyez que le tarif d'enfouissement de l'amiante là, qui demande des mesures plus précises, et lui, il va être à 300 $ la tonne métrique. Vous voyez qu'au niveau de nos tarifs de récupération, la ligne est la même. Donc, on a 150 $ là, pour le traitement des CRD, 75 $ la tonne pour le traitement des résidus verts. 50 $ la tonne pour le traitement des tubulures d'érablière sans broche. Et on maintient nos tarifs avantageux pour de la récupération sans frais pour le plastique de balle ronde blanc non souillé trié à la source. Pour la ferraille qui nous est amenée aussi trié à la source, il n'y a pas de frais. La matière recyclable, évidemment, qui nous serait amenée n'a pas de frais non plus, ainsi que les résidus domestiques dangereux visés par les règlements du ministère n'a pas de frais, comme dans vos municipalités locales, là. Puis, pour finir, on aurait les autres tarifs, dans le fond, de service sur le site. Des fois, lorsqu'on doit déglacer un conteneur avec notre pic de déglaçage, c'est 50 $ Et lorsqu'on parle de faire juste une pesée unique, parce que des fois, des gens ont besoin de peser des chargements sans nécessairement venir au site, on a un tarif forfaitaire de 25 $ qui est pour cette activité-là. Évidemment, la résolution prévoit que s'il y avait un changement, la MRC pourrait procéder unilatéralement au changement ou à la classification des matières en fonction du chargement qui nous est amené. Et que lorsque quelqu'un nous amène un chargement avec plusieurs matières et qu'on n'est pas capable de faire la distinction, bien évidemment, on va facturer le tarif le plus élevé pour la matière qui est dans le chargement pour inciter les citoyens ou les entreprises qui nous amènent des matières directement à faire le tri.
Okay. Proposition pour l'adoption.
Jean-Yves.
Et Christian. Ça va? PGMR 3.0, projet collaboratif Chaudière-Appalaches.
Merci. David? Oui, donc, dans le cas du PGMR, comme vous le savez, on parle du PGMR 3.0, puisque ça va être la troisième version de notre document de plan de gestion de matières résiduelles. Celui-ci devra être révisé là, au courant de l'année 2021 pour demeurer conforme avec les exigences de la loi sur la qualité de l'environnement. Comme vous vous en rappelez, là, dans les séances précédentes en lien avec la recommandation du CGMR, on avait regardé avec les municipalités, les MRC de la Chaudière-Appalaches qui étaient intéressées de procéder à un projet collaboratif puis de travailler sur un projet d'entente. Suite aux discussions qui ont eu lieu avec les différentes municipalités, la façon la plus logique et simple et si je peux dire facile de procéder, a été de demander une proposition de service à l'entreprise Chamard Stratégie environnementale, qui est un leader là, au niveau du Québec, là, au niveau de la rédaction des PGMR. Là, c'est la firme qui en rédige le plus au Québec. Ils ont une expertise là-dedans et ils, dans le fond, c'est avec les discussions là, suite aux recommandations des différents comités dans les MRC que cette firme-là a été approchée. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font une proposition à chaque MRC pour le PGMR de la MRC, puisque chaque MRC a quand même des enjeux particuliers, comme c'est le cas de la MRC de Bellechasse. Vous le savez, on a une déclaration de compétences complète, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres MRC. Fait que pour toutes ces raisons-là, ça a été plus avantageux travailler directement à une proposition par MRC. Et c'est cette offre de service-là que vous avez en main dans les documents du conseil. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur cette offre de service-là, mais s'il y en a, on peut les prendre. Sinon, comme vous le voyez dans le projet de résolution, ce qui serait recommandé par la suite de la recommandation au comité de gestion qui a vu la proposition, ça serait de recommander là, l'octroi du contrat à cette firme-là pour la révision du PGMR de la MRC de Bellechasse dans la formule finalement clé en main. Et ça, dans une approche régionale. Et chaque MRC qui a embarqué dans l'approche régionale collaborative fait de même là, avec cette entreprise-là pour être capable d'avoir une uniformité. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions.
Essentiellement, deux choses. Notre participation dans le projet et de donner le mandat à la firme Chamard pour réaliser notre entente régionale. S'il n'y a pas de questions ou propositions,
Denis propose.
Denis, qui oui. Seconde?
Manon.
Monsieur le préfet?
Oui.
Peux-tu mentionner les montants?
Oui. David?
Oui, effectivement. Merci, oui. Monsieur Caron. Donc, effectivement, là, comprenez que c'est un projet qui est sous forme de banque d'heures et qui est évalué au moment où on se parle à 24 435 $ avant taxe. Et donc, c'est conforme avec l'estimé qu'on avait là, pour la rédaction d'un PGMR, là, surtout sous forme clé en main, évidemment. Et vous pourrez prendre le temps aussi de voir, dans le fond, ils nous ont mis certaines fiches pour d'autres mandats similaires réalisés dans le passé. Et vous verrez aussi que ça comprend aussi l'organisation des consultations publiques ainsi que l'animation de ces rencontres-là. Donc, il en demeure pas moins que... on considère que ça regroupe suffisamment d'activités pour que ça soit conforme à notre estimé.
C'est bon? Ça répond à ta question? Pas d'autres questions? On serait rendu à récupération CRD, octroi de contrat?
Oui, on peut passer. Donc, vous avez vu que dans les documents, on vous a joint un peu la fiche projet. La fiche projet est similaire à ce qu'on avait fait en juillet. Vous vous rappelez que traditionnellement, ce qu'on faisait avec la récupération du bois, avant d'entrer dans notre grosse saison des éco-centres, on procédait là, à un appel d'offres, soit sur invitation ou une demande de prix, dépendamment. Puis que là, de fil en aiguille, on voit que les quantités augmentent d'année en année. Et ce qu'on a vu aussi cet été, c'est que compte tenu de l'incertitude liée à la COVID, on a vu une augmentation des prix et à ce moment-là, on avait jugé stratégique d'y aller pour une courte période puisque pour la récupération du bois, la variation saisonnière, fait en sorte que c'est plus avantageux d'aller en demande de prix ou en demande de soumission, pardon, à l'automne pour l'année et pour une année. Donc, on est retourné en soumission. en appel d'offres public cet automne. Et dans le fond, vous voyez que dans le fond, les soumissions qu'on a obtenues, on en a obtenu trois et que si on considère la soumission la plus basse qui est conforme sur l'ensemble de ce qu'on payait au mois de juillet, il y aurait une économie annuelle de 2,2. Donc, dans ce contexte-là, on recommande là, d'aller justement parce que vous, peut-être que vous vous rappelez que nous, on a divisé le contrat en lots, que chaque entreprise qui est la moins chère pourrait remporter le lot. Dans ce cas-ci, c'est l'entreprise Location d'Algie qui a été la moins chère pour tous les lots. Donc, dans ce cas-là, on vous recommanderait d'aller pour un octroi de contrat pour l'ensemble des lots à Location d'Algie. Vous voyez qu'en fonction des quantités estimées et des prix unitaires à la tonne qui ont été déposés, on parle d'un contrat global avant taxe de 140 380 $ et que ça, c'est bon pour l'année 2021 au complet. Fait que c'est dans ce sens-là que va le projet de résolution et que, dans le fond, ça m'autoriserait en tant que directeur du service gestion de matières résiduelles à signer les documents là, relatifs à cette entente.
Proposition? S'il y a pas, à moins que vous ayez des questions. Sinon, proposition.
Ouais, juste une question, Clément.
Oui, c'est, Christian.
Ça inclut le bois que dans nos éco-centres aussi, là.
Absolument. Absolument. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des lots. Si je vous réfère, à l'analyse des soumissions, là, à l'ouverture des soumissions,
ouais.
Vous voyez que quand on parle, par exemple, du bois, quand on parle de transport et traitement, ça, c'est le bois qui est ramassé dans les éco-centres et qui transite par le site Arma. Puis vous voyez que l'alternative B, traitement seulement, ça, c'est le bois qui sont pour les éco-centres qui sont plus proches de leur lieu de récupération. À ce moment-là, on va porter les conteneurs directs. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est pour l'ensemble du bois qui est récupéré partout sur le territoire, que ce soit dans vos éco-centres municipaux ou à même le site. Puis là, il y a des prix qui sont faits en fonction de la quantité de services que l'entreprise nous donne. Puis, par matière aussi, parce qu'on a trois matières. Maintenant, on a le bois, on a le bardeau d'asphalte, dans certains cas, et on a le gypse.
Le gypse
qui est visé spécifiquement, là, vous vous rappelez, pour prévenir, la propagation d'odeurs liées au H2S. Là.
C'est beau.
Luc, propose.
S'il n'y a pas d'autres questions, proposition, Luc et...
J'aurais peut-être une question, Clément, par exemple.
Oui, Sébastien.
Est-ce que ce service-là s'autofinance par, justement, là, ce que ça coûte aux municipalités, les conteneurs de nos éco-centres? Est-ce que les contracteurs emmènent au site? Est-ce que ça s'autofinance de cette façon-là?
La façon que je pense qu'il faudrait le voir, c'est que quand vous voyez les prix de notre qu'on va payer, si on les prend pour les prix de l'alternative A, vous voyez, je vais prendre l'exemple du bois parce que c'est le plus simple. Vous voyez que transport et traitement, on est à 104 $ la tonne. Alors que lorsqu'on parle de notre tarif d'enfouissement, que nous, on est une municipalité, donc on n'a pas de marge de profit en tant que tel. On facture le service au prix coûtant, incluant tout dedans. Nous, on facture les tarifs d'enfouissement pour l'année 2021 à 150 $ la tonne. Donc, pour répondre à votre question de façon indirecte, la réponse, c'est oui, ça s'autofinance dans la mesure où c'est avantageux de payer pour récupérer ces matériaux-là chez un tiers parce que ça nous revient moins cher que ce que ça nous coûte l'enfouir. Donc, selon cette logique-là, on dévie les matériaux de notre site d'enfouissement, qu'on maintient la capacité d'enfouissement à long terme et on redirige ces matériaux-là à travers les entreprises qui peuvent le gérer, le récupérer et ainsi de suite, nous donner là, une économie puis une meilleure rentabilité sur notre site à long terme, effectivement.
Autre question? Sinon, proposition? Luc qui avait proposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Jacques Bruno?
Puis, juste pour conclure l'information par rapport à la dernière question, qui est une très bonne question par ailleurs, là, soit dit en passant, j'attire votre attention au fait que j'ai pris l'exemple du bois à 104 $, mais quand vous regardez l'alternative A, là, ça se promène pour le moins cher entre 104, 109 et 115 $. Donc, dans tous les cas, on a une économie là, de minimum 35 $ la tonne par rapport à nos tarifs d'enfouissement. Fait que dans tous les cas, c'est avantageux. Là.
Mais le 35 $, ça représente juste pour le transport, ça?
Non, le 35 $, c'est le coût parce que quand la matière est au site, c'est le coût de traitement et transport inclus pour l'amener et la faire traiter ailleurs dans un centre de récupération, dans ce cas-ci, les installations de location d'algie à Saint-Isidore. Donc, le 115 $, c'est tout inclus, sauf les taxes, évidemment. Là. Et on compare ce 115 $-là, par exemple, à notre 150 à nous, puis c'est là qu'on fait un différentiel, qu'on dit que c'est plus avantageux de l'ordre de 35 $ la tonne de l'envoyer à l'extérieur. Là. Ça va?
Mais dans le traitement comme tel, à l'alternative B, là, on parle de 79 et 75.
Alors... Oui, ça, c'est quand on va le porter directement à la porte, là-bas, nous-mêmes.
OK.
Donc, la différence entre les deux, c'est notre coût de transport à nous, là.
C'est le 35 $, c'est ça.
Ben, il y a un autre 35 $-là. Effectivement, ça tombe sur le même chiffre. Vous avez raison, c'est le même chiffre. Oui,
ouais, c'est ça. Là. OK, c'est beau.
C'est beau. On passe au point 8.5, projet SPED. On en a discuté.
Clément, le son a coupé.
On ne t'entend pas, Clément.
C'est beau. Donc, on en a discuté du sujet 8.5, projet SPED, en huis clos et à des rencontres précédentes. Alors, je demanderai à David de nous faire lecture de la résolution qu'on a à adopter ce soir. Alors, vas-y, David.
Parfait. Donc, merci Clément. Je vais donc partir du projet de résolution comme... que vous avez dans vos documents. Donc, on parle du projet SPED, la ratification d'une entente avec l'entreprise Terro Biogaz, attendu que le conseil de la MRC a adopté la résolution CM 2020-05-120 afin de déroger un projet au système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, qu'on appelle le SPED, attendu que le conseil de la MRC a adopté la résolution CM 2020-06-148 afin de négocier la réalisation du SPED avec l'entreprise Terro Biogaz par l'entremise d'un comité de négociation et de faire valider l'entente par un conseiller juridique. Attendu que Terro Biogaz a proposé deux options de rétribution pour l'entente de partenariat, soit une option à revenu fixe et une option à pourcentage de profit associé au projet. Attendu que le comité de négociation a évalué qu'en fonction de l'adéquation du risque et du rendement associé à ce projet, l'option de l'entente à revenu fixe est la plus avantageuse pour la MRC, notamment pour la première période de 10 ans prévue pour le projet. Attendu que l'entente de partenariat est structurée de telle sorte que s'il devenait plus avantageux de changer de mode de rétribution pour la MRC à l'aube de la deuxième période de 10 ans, la MRC pourra exercer une option à cet effet. Attendu que l'avis juridique obtenu par la MRC pour valider les aspects légaux et contractuels de cette entente, confirme que l'entente de partenariat déposée au Conseil est conforme aux exigences légales en vigueur pour ce type d'entente et, comme on l'a dit en huis clos, qu'on va s'assurer d'avoir l'avis écrit avec toute incidence sur des modifications de virgule s'il y en avait sur l'entente, mais que c'est conditionnel. En tous les cas, les exigences légales sont conformes. Il y aurait une condition à recevoir l'avis final. Attendu qu'en vertu du Code municipal, la MRC devra émettre un avis public qui stipule qu'elle a cédé les crédits compensatoires associés à la destruction des biogaz au plus tard un mois suivant la ratification de l'entente. En conséquence, il serait proposé que le conseil de la MRC de Bellechasse accepte l'entente de partenariat présentée par Terro Biogaz, que le conseil de la MRC autorise la directrice générale à signer tout document relatif à cette entente et que le conseil de la MRC mandate le directeur du service GMR à publier l'avis requis là, en vertu du code municipal selon les exigences du code et qui est en lien avec l'entente. Donc, je vous rappelle là, au niveau des... à partir du moment où on procède à la vente de ces crédits carbone-là, il faut faire un avis public. Donc, c'est essentiellement ça l'obligation. Là.
Peut-être une recommandation dans le texte de ta résolution, David. C'est que, étant donné que les écrits restent, ce serait peut-être important de mentionner à ton point 1, il est résolu que le conseil accepte l'entente à coût fixe là, et non pas là, oui. À revenu fixe, qu'on le spécifie, procurant des revenus de 50 000 $ par année. Pourquoi ça va rester dans les écrits? Pourquoi on prend cette entente-là? Et le montant qu'on s'attend de recevoir dans le futur, parce que nulle part dans ta résolution, tu fais mention dans notre résolution finale que c'est une entente à revenu fixe et du 50 000 $
Excellent commentaire, monsieur le préfet, tout à fait. C'est pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, là, c'est important, je pense, de mentionner que le revenu fixe en question, il est de l'ordre de 50 000 $ par année sur 10 ans, donc pour un total sur les 10 ans de 500 000 $ là, de revenus qui vont être perçus par la MRC de Bellechasse en vertu de cette entente.
C'est beau. Sarto, merci. Peux-tu fermer ton micro?
Oui, c'est parce que je voulais proposer.
Ah, OK! Proposé par Sarto, secondé par Germain. Merci, messieurs. C'est beau, on serait rendu maintenant au PSREE, demande de financement bonifié. Toujours toi, David?
Oui, je vous rassure, là, c'est le dernier point de gestion de matières résiduelles pour cette soirée de budget. Après ça, je vais céder le micro, comme on dit. Je pense que M. Christopher a actionné un partage d'écran.
Oh, baptême, David, il peut nous contrôler.
Monsieur Christopher, il va falloir soit sortir du partage d'écran si vous êtes capable, ou peut-être Annick, tu es capable de le faire. Là. Oui.
S'il le refait, on le sort.
Wow. Donc, c'est beau. Je considère que pour tout le monde, on est revenu à la normale.
Oui.
En ce qui concerne le PSREE, c'est un acronyme qui traite du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Vous vous rappelez qu'on avait déposé une demande. C'est essentiellement un point d'information. C'est une demande qu'on a déposée donc dans le cadre de l'appel à projet du ministère de l'Environnement. Vous voyez qu'on a remis à jour la fiche résumée avec ce projet-là, que c'est un programme, dans le fond, que la caractérisation environnementale du cours d'eau roi était devenue nécessaire suite à la résolution du comité qu'il recommandait, qui venait de, dans le fond, des sons de cloche des différents intervenants, là, notamment les citoyens d'Arma.
Je n'entends plus rien.
Excusez-moi?
Oui,
Non. OK. Donc, c'est ça qui venait de la demande des citoyens qui avaient assisté à notre séance d'information publique sur la qualité de l'eau. Avec le programme de soutien régional, on aurait 75 % des dépenses liées au projet qui seraient financées. Et donc, on avait proposé à une demande de financement en vertu de l'appel de projet de l'été 2020. Comme vous l'avez vu également dans la correspondance, l'avis préliminaire qu'on a reçu du ministère, c'est que dans sa forme actuelle, le projet ne serait pas accepté. Par contre, ce que le ministère fait dans certains cas où il considère, si je lis entre les lignes, si je comprends bien, que le projet, il aurait le mérite de pouvoir être intéressant, mais qu'il manque un certain nombre d'éléments aux yeux du ministère, ils nous font une recommandation de bonifier le projet et de le redéposer. Dans le fond, on a une recommandation du CGMR de faire ça. Et puis, ça n'engage pas de nouvelles résolutions du Conseil. La date limite est vendredi à minuit, le vendredi le 27. Et avec les modifications qu'on met, on peut majorer le budget en conséquence pour avoir le 75 % qui s'applique là-dessus. Et ce qu'on comprend, c'est que si on procède, dans le fond, avec la nouvelle mouture sur laquelle on travaille, bien, on a quand même, on n'a pas de garantie évidemment, mais on a de bonnes chances d'obtenir le financement. Puis comme vous pouvez voir, la révision du projet qui était demandée du ministère, c'était essentiellement d'ajouter certaines analyses que le ministère considérait qu'il manquait. Fait que le fait de faire ces ajouts-là en amont, ça nous donne une meilleure acceptabilité sociale aussi, là. Et comme je le dis aussi dans la dernière phrase de la fiche projet, c'est que si on décidait de laisser tomber à ce moment-ci puis qu'il fallait qu'on continue quand même avec le projet, bien, le fait de le laisser tomber nous créerait un manque à gagner de 45 000 $ qui est essentiellement les sommes qu'on a budgétées là, pour l'enveloppe là, qui serait disponible. Fait qu'essentiellement, on va redéposer le projet et on va espérer que cette fois, ça sera la bonne au niveau du financement. Là. Fait qu'il n'y a pas de résolution. C'est juste pour informer le conseil du suivi de ce dossier-là. Et on va avoir la nouvelle. Si on a la nouvelle, ça va aller probablement en janvier 2021.
Alors, merci, David. On aurait terminé les points matières résiduelles. Alors, il n'y avait pas d'autres questions. On passerait au point administration, correspondance. Alors, je vais céder le micro à Annick qui va nous passer la correspondance prévision budgétaire corps. Alors, je vous la laisse pour un petit bout de temps.
Merci. Donc, je vais aller là, dans un premier temps. Attendez un instant. Donc, je vais aller par un premier temps là, par la correspondance. Donc, la correspondance, je vais parler assez fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que des fois, ma voix n'apporte pas nécessairement autant là, que celle à Clément. Donc, voilà. Donc, correspondance numéro un qui nous provient là, c'est une annonce qui a été faite là, au niveau du réseau Accès Entreprise Québec. Une annonce qui nous a été faite par Mme Marie-Ève Proulx, là, qui est la ministre déléguée au développement économique. Donc, c'est l'annonce qui est en lien avec l'ajout de ressources au niveau du développement économique. Donc, voilà pour le communiqué numéro 1. Ensuite, au niveau de la correspondance numéro 2 qui nous provient de la MRC de Beauce-Sartigan en lien avec l'annonce de l'embauche de ID Territoire comme soutien à la concertation régionale en Chaudière-Appalaches. Donc, cette concertation-là, donc c'est un projet qui est financé là, à même le Fonds d'appui au rayonnement des régions via l'enveloppe régionale, donc qui concerne l'ensemble des territoires de la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est pour venir appuyer là, la concertation régionale en lien avec le plan d'action qui a été là, adopté par la table régionale des élus. Donc, justement, là, pour poursuivre là, la mise en place de ces différentes actions-là. Ensuite, à la correspondance numéro 3, donc c'est une correspondance qui nous provient de la municipalité de Saint-Anselme en lien avec l'abandon de la collecte supplémentaire, donc pour signifier leur désaccord par rapport à cet abandon-là au niveau de la collecte supplémentaire. Ensuite, correspondance numéro 4 qui nous provient de la municipalité de Saint-Anselme en lien avec la signature de l'entente au niveau de la gestion des cours d'eau. Je vous dirais que j'ai reçu l'ensemble des résolutions de vos municipalités. Là, c'était mes dernières là, qui restaient à rentrer là, cette semaine. Donc, j'ai reçu l'ensemble. Donc, nous allons pouvoir procéder là, à l'envoi de l'entente dans chacune de vos municipalités là, pour signature. Donc, je vais procéder là, à tout ça au courant de la semaine prochaine.
C'est pour Saint-Michel, Annick.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il était dit Saint-Anselme.
Oui, c'est ça. Ah, je me suis trompée. Parfait. Saint-Michel, non, désolé. Désolé, merci de m'entendre. Donc, je vous teste voir si vous suivez. Ça doit être ça, c'est ça, là. Fait que je vois que vous suivez.
On va le voir, suis.
Donc, prochaine correspondance qui nous provient de la municipalité d'Arma en lien avec le même dossier que la municipalité de Saint-Michel, donc pour la signature là, au niveau de l'entente, au niveau de la gestion des cours d'eau. Ensuite, correspondance numéro 6 qui nous provient là, du cabinet comptable Mercier-Vallière-Lapointe là, au niveau du regroupement de ses activités là, avec celle de Raymond Chabot et Grant Thornton. Donc, voilà. Ensuite, à la correspondance numéro 7, même chose, mais qui nous provient de la municipalité de Saint-Charles en lien avec l'obstruction dans les cours d'eau là, au niveau de la signature de l'entente. Ensuite, correspondance numéro 8 qui nous provient de Développement économique en lien avec le renouvellement de l'entente de délégation entre la MRC et Développement économique Bellechasse. Donc, c'est pour nous signifier là, que l'entente vient à échéance le 31 décembre prochain. Donc, en décembre, au prochain conseil de la MRC, le 9 décembre prochain, donc on procédera à la ratification de cette entente-là. Je vous présenterai là, l'entente qui était au préalable en vigueur versus la nouvelle. Vous allez voir que c'est les mêmes éléments qui s'y retrouvent. Donc, on procédera là, à cette ratification-là en décembre. Correspondance numéro 9 qui nous provient du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières. Donc, c'est une demande d'appui. C'est dans le cadre là, d'une phase 2. La phase 1 qui avait été réalisée là, au niveau des connaissances et la production d'outils pour faciliter la gestion et l'aménagement du territoire en fonction des aléas côtiers. Donc, c'est une demande d'appui pour leur phase 2. Alors, vous avez vu là, la résolution qui nous était proposée par l'organisme. Alors, est-ce que vous voulez y aller de l'avant avec cette résolution-là ou non? Oui, monsieur. Monsieur Tessier.
Bien, moi, je trouve que le projet résilience est très intéressant. Il faut effectivement suivre les travaux. Donc, moi, je propose de supporter. Je pense que c'est un appui moral qu'il demande. Il ne demande pas d'argent. Mais je pense que pour toutes les municipalités riveraines, c'est effectivement des travaux très importants. Et il faut juste exploiter les fruits des travaux. Là. Alors, je le propose.
Je vais l'appuyer.
Parfait. Donc, à la correspondance numéro 10 qui nous provient du ministère des Transports, donc c'est un retour sur la saison des travaux 2020. Donc, essayez de voir avec vous si nous planifions là, une rencontre virtuelle justement avec le ministère des Transports, si vous avez des questions par rapport aux travaux qui se sont déroulés ou par rapport aux futurs travaux qui se dérouleront là, dans les années futures. Oui, M. Tessier.
Oui, je pense qu'une réunion est nécessaire parce qu'à moins que je sois le seul maire qui vive des inconvénients avec la gestion des eaux du ministère de Transport, je pense que toute la question des eaux là, du MTQ devrait être abordée pour le futur. Là. Une question de circulation, mais une question d'impact sur les travaux, des travaux du MTQ sur nos infrastructures municipales.
Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être entériner une petite résolution que je pourrais transmettre là, à Mme Barbara Godbout, là, qui est notre agent de liaison là, au niveau du ministère des Transports pour l'organisation d'une rencontre. Donc, on pourrait les inviter à se joindre virtuellement à une de nos prochaines rencontres du Conseil.
Je ne vois pas.
J'appuierai.
Parfait. Donc, ensuite, correspondance numéro 11 là, qui nous provient du gouvernement du Québec en lien avec l'appui là, au niveau des regroupements des festivals régionaux. Donc, c'est une annonce là, en lien avec des sommes qui seront disponibles là, pour financer là, justement certains événements là, qui n'ont pas eu lieu et qui habituellement là, avaient lieu là, par le passé, étant donné la situation actuelle de la pandémie. Ensuite, à la correspondance numéro 12 qui nous provient du ministère de l'Environnement. Donc, c'est ce qu'on a discuté un peu avec David là, tout à l'heure. Là, c'est vraiment là, notre proposition de projet là, en lien avec le PSREE qu'on a discuté tout à l'heure là, qui avait été refusé. Donc, David nous en a parlé tout à l'heure là, quand on a parlé là, au niveau des points, au niveau de la matière résiduelle. Donc, c'est la lettre qui accompagnait là, le refus de financement. Correspondance numéro 13 qui nous provient de Claude Plourde. Donc, on en a discuté également là, à la section gestion des matières résiduelles en lien avec l'annonce de sa démission. Ensuite, correspondance numéro 14 qui nous provient de la MRC de Mekinac en lien avec le soutien là, au niveau des relais de motoneige. Donc, c'est une demande d'appui là, aux démarches qui sont entreprises là, afin là, d'optimiser, pas d'optimiser, mais justement d'appuyer les relais motoneige là, pour la saison hivernale là, 2020-2021. Là, parce que comme vous le savez, là, les relais là, de motoneige de la région, ils doivent conjuguer avec l'interdiction d'ouvrir leur cuisine, mais aussi de demeurer accessible aux motoneigistes sous la suggestion de Mme Proulx, afin d'être des endroits pour se réchauffer et consommer leur propre lunch amené pour les randonnées. Et vous savez là, que la grande partie du financement là, au niveau des relais motoneige, là, c'est surtout là, les repas là, qui sont consommés là, par les visiteurs. Est-ce que vous seriez en accord à appuyer cette démarche-là?
Oui, moi je serais d'accord.
Daniel propose.
Okay. Daniel propose et propose. Jean-Yves se rend. Parfait. Donc, ça fait le tour au niveau de la correspondance. Maintenant. Donc, ça faisait le tour des correspondances. Donc, maintenant, on s'est rendu là, aux prévisions budgétaires 2021. Donc, c'est un sujet qu'on a traité là, la semaine dernière lors de notre séance de travail. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai un résumé bref là, et peut-être en disant là, les grandes orientations qui avaient été prises. Là, il y avait une résolution qui avait été adoptée par le CA dont on a discuté la semaine dernière. Donc, je referai la lecture de cette résolution-là pour mettre les gens là, au même diapason. Donc, la résolution qui a été adoptée par le CA. Donc, le comité administratif recommande au conseil de la MRC les orientations budgétaires suivantes pour l'exercice financier 2021, donc d'inclure aux prévisions budgétaires 2021 l'embauche d'un conseiller en ressources humaines, de financer le poste d'agent de projet via le Fonds Région et Ruralité volet 2 à raison de 60 000 $ pour l'année 2021, financer le poste d'agent en communication via le Fonds Région et Ruralité volet 2 à raison de 50 000 $ pour l'année 2021, affecter 60 000 $ du fonds éolien à l'administration afin de minimiser l'impact de l'augmentation des quotes-parts dues à l'embauche d'un conseiller en ressources humaines en 2021, affecter 50 000 $ à l'administration générale et 30 000 $ à l'évaluation du fonds CIM afin de couvrir les dépenses reliées à l'achat de matériel informatique. Fixer les tarifs à 103 $ par année pour les résidences permanentes et à 51 $ et 50 $ par année pour les résidences saisonnières pour la vidange et la disposition des eaux usées de fosses septiques. De fixer le taux horaire pour le service infrastructure à 71 $ et 75 $ de l'heure pour la facturation 2021. D'inclure au budget une quote-part additionnelle et ponctuelle pour l'année 2021 de 71 828 pour le service de collecte partie 2 et de 131 499 pour le service de traitement partie 3, selon la recommandation faite par le CGMR. Ne faire aucune affectation de surplus pour le service de collecte partie 2 et le service de traitement partie 3 afin de créer une réserve pour les règlements d'emprunt à venir et les imprévus reliés au dossier de la matière organique. Recommander les tarifications proposées par le CGMR dans sa résolution. Effectuer les affectations suivantes. Donc, au niveau des affectations, donc c'est une affectation de surplus de 293 467, une affectation pour revenant du fonds région et ruralité de 562 407 $ au niveau du fonds éolien, 143 771 et au niveau du fonds CIM de 80 000 $ pour un montant total d'affectation de 1 079 645 $ Maintenant, d'accepter là, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 comportant des revenus égaux aux dépenses. Au niveau de l'administration générale, 10 084 778. Au niveau de la collecte et transport des matières résiduelles, 3 146 144. Au niveau de la disposition des matières résiduelles, 4 423 325 $ Au niveau de l'inspection régionale en urbanisme, 415 990. Au niveau de l'entente intermunicipale, 132 267. Au niveau de la cour municipale, 594 400. Au niveau de l'urbanisme, au niveau de la refonte des règlements, de 116 815 $ pour un budget total pour 2021 de 18 913 719 $ Et que les recommandations pour l'adoption des quotes-parts se fassent de la façon suivante. Au niveau de l'administration générale, 2,5 % Transport adapté, 9,06 Transport collectif, 22,67 Transport interurbain, aucune augmentation. Eau usée, 15,49 Collecte partie 2, 16,74 Traitement partie 3, 17,16 Inspection urbanisme, moins 3,6 pour une augmentation totale et globale pour 2021 de 10,01 Alors, j'aurais besoin là, de quelqu'un qui propose...
Martin J propose.
L'orientation pour le budget 2021.
Second. Martin J.
Germain, pas un second.
L'adoption.
Oui.
Elle va te demander, Annick, là.
Oui.
Elle va te demander. La résolution, c'est quoi? C'est parce que là, il n'y a pas de résolution. Là, tu nous as mis la copie de la résolution du comité administratif. Donc, ta résolution, c'est d'adopter la résolution du comité administratif?
Exactement, qui est en lien avec les orientations budgétaires, qui est en lien justement là, avec les prévisions budgétaires et l'augmentation au niveau des quotes-parts.
C'est la résolution d'adoption.
Exactement.
Parfait. OK. Donc, elle va te demander.
Parfait.
Le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont contre?
Éric. Notamment pour la partie 1.
Gilles Breton.
C'est beau.
Au niveau
Gilles de la Breton.
Partie 2 et partie 3.
Pas d'autre. Donc, adopté majoritairement. On serait rendu au quote-part 2021 et tarification, Annick.
Donc, je vous ai retransmis là, en début de semaine, lundi dernier, là, les nouvelles tarifications, là, surtout en lien là, avec ce qui était en fonction de la richesse foncière, parce que j'ai reçu là, les confirmations du ministère des Affaires municipales au niveau des médianes lundi dernier. Donc, la résolution là, a quelque peu changé là, au niveau des chiffres qui étaient présentés dans la résolution initiale. Donc, je vous n'en ferai pas la lecture complète là, au niveau des tarifications. Vous l'avez entre les mains. Donc, j'aurais besoin d'une adoption là, au niveau des quotes-parts.
J'ai juste une question d'intendance, Annick. Là, encore là, ton projet de résolution qui n'est pas là est la résolution. Tu comprends que ce que tu nous présentes, c'est la résolution. C'est pas ta résolution à toi, c'est la résolution du CGMR. Donc, ta résolution, c'est d'adopter copie conforme. Là,
excusez-moi, monsieur, ben, la résolution est là au niveau des codes parts.
Pour la page P6?
9.3, on est rendu au point 9.3.
Excuse-moi, Danick, là, c'était juste moi qui...
Il n'y a pas de problème.
Donc, proposition?
C'est beau, merci.
Proposeur?
C'est beau, Éric.
Éric, qui seconde?
Yvon.
Seconde.
Yvon, le vote n'est pas demandé. Donc, unanime. Merci. On est rendu
Excuse-moi, Clément, là, j'ai dû quitter une minute là, sur ce point-là. Là.
Oui.
J'aimerais ça réentendre, là, parce qu'on parlait des points partie 2 et partie 3. Là.
Non, non, c'est l'adoption des quatre parts.
C'est pas le budget, ben, là, c'est les quatre parts.
Bon, mais les quatre parts, moi, je me suis prononcé là-dessus. Là. J'ai dit que j'étais à contre au niveau de les parties 2 et 3 là, au niveau de l'augmentation de 10%. Là.
Donc, tu comptes aussi les quatre parts.
Ben, gars, ça va de soi. Ça va de soi aussi.
C'est beau. On va noter ta dissidence, pas ta dissidence.
Non, non, je ne suis pas dissident, je compte.
C'est ça.
Clément, il vote contre les quatre parts que tu as présentés. Là,
c'est
là,
ça.
Qui sont là, là qui ne oui. veulent pas, là, qui sont là. Okay.
L'adoption des quatre parts, donc il vote contre. Tarification, service d'infrastructure.
Donc, était déjà dans la résolution là, qui était proposée au départ. Donc, c'est au niveau de la tarification pour les services qui seront rendus par le service d'infrastructure là, pour l'année 2021. Donc, la proposition de taux horaire à 71,75 $ qui inclut les bénéfices marginaux.
Qui propose?
Éric.
Qui seconde?
Sébastien.
Sébastien, c'est beau. Calendrier des séances 2021, vous avez pris connaissance de ça, peux-tu nous rappeler?
Oui, dans le fond, calendrier des séances, dans le fond, essentiellement, là, le troisième mercredi du mois. Mis à part juillet qui se trouve être le deuxième et en novembre qui se trouve être le quatrième mercredi du mois. Donc, vous avez le calendrier qui sera déposé et affiché.
Décembre, c'est-tu le troisième mercredi?
Oui, décembre, il est le troisième mercredi vu que Noël y est en
décembre. Noël est plus tard.
Proposition pour l'acceptation du calendrier. Martin?
Oui.
Luc. Seconde. Luc. Luc. Merci.
J'ai peut-être juste un commentaire, Clément.
Oui.
Est-ce qu'il serait, à titre informatif, comme effectivement ça va être public, d'indiquer que pour le mercredi 24 novembre 2021, ça sera aussi une séance pour l'adoption du budget ou comme il y aura des élections, vous prévoyez une séance supplémentaire pour le budget?
Probablement, mais étant donné que ce sera une décision du conseil qui sera bon. Là, est-ce qu'on maintient le troisième mercredi, le troisième mercredi. Pour la préparation du budget? Ils pourront le décider là, l'année prochaine en octobre.
Parfait, merci.
Oui.
Peut-être pour préciser aussi au niveau du calendrier qui est adopté, c'est pour les séances publiques. Donc, la séance au niveau du budget là, se tient à huis clos. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, dans la résolution également.
OK, moi, c'était plutôt pour l'adoption du budget. On comprend que le budget ne sera pas adopté au mois de novembre comme cette année, mais sera adopté effectivement au mois de décembre, probablement.
Non. C'est obligatoire, Éric. C'est toujours le quatrième mercredi. C'est pour ça que notre séance du troisième mercredi est consacrée à une séance à huis clos pour préparer ce budget-là.
OK, c'est bon. Parfait.
Donc, on serait rendu à entente de développement culturel. Annick nous fait le résumé.
Oui, dans le fond, au niveau de l'enveloppe culturelle, donc c'est la nouvelle enveloppe là, d'aide financière là, pour les trois prochaines années, donc 2021 à 2023. Donc, c'est un montant de 90 000, donc 30 000 $ par année. Je vous dirais que c'est sensiblement là, la même chose que par le passé. Par contre, dans le passé, c'est qu'on avait une entente qui était d'environ 20 000 $ par année, mais qui comprenait là, des bonifications qui étaient faites là, de l'ordre de 10 000. Donc, on avait tout le temps là, un 20 000 et un 10 000 qui devenaient se bonifier par la suite. Maintenant, c'est vraiment une entente là, en bonne et due forme là, de 30 000 par année pour un total de 90 000 pour le prochain 3 ans.
T'apprends-tu une résolution? Ça nous prend une résolution pour accepter l'entente là, soumise par...
J'avais une question préalable. Là. On demande une subvention, mais on fait quoi avec cet argent-là? Je comprends, là, je n'ai rien contre la vertu, là, mais on demande une aide financière de 90 000. Là. C'est quoi les orientations qui sont prises pour la demande?
Il y a un comité culturel, mais Annick va vous répondre là-dessus.
C'est ça, il y a un comité culturel qui est mis en place au niveau de la MRC qui, dans le fond, élabore le plan d'action. Et dans le fond, c'est ce plan-là qui est soumis là, au ministère de la Culture et qui est évalué une fois par année. Là, il y a une agente au niveau du ministère qui vient rencontrer moi et Claude à cet effet-là pour s'assurer que les sommes sont bel et bien, investies dans les projets qui sont au plan d'action.
Merci.
Donc, c'est la réalisation d'action. Qui a proposé?
Manon.
Qui seconde?
Guylaine. Oui.
9.7. Légalisation du cannabis, c'est le plan d'action. On n'a pas légalisé le cannabis, mais il faut se doter d'un plan d'action suite à l'obtention d'une aide financière.
Donc, c'est ça, j'ai ramené là, la résolution là, qui avait été au préalable adoptée là, par le conseil de la MRC en lien avec la légalisation. Pour vous rappeler, c'est un montant de 90 516 $ qui avait été octroyé au niveau de la MRC. Et on avait décidé, là, le conseil en avait décidé d'en faire un projet, là, un projet régional plutôt que de faire un projet municipalité par municipalité. Donc, moi, j'ai rencontré la table préventive jeunesse. Là, vous avez là, dans les documents les gens qui siègent au niveau de cette table-là pour justement que l'impact soit plus au niveau des écoles parce qu'on savait là, que c'était surtout là, cette clientèle-là qui était à risque là, en lien avec la légalisation du cannabis. Donc, il y a un plan d'action qui a été déposé. Je vous le dépose ce soir pour adoption, ce qui nous permettrait de libérer les sommes par la suite au comité qui a été mis en place là, par la table préventive. Et l'ensemble des actions vont être supportées là, par le Carrefour Action Jeunesse et par l'organisme là, Action Jeunesse Côte-Sud qui vont se répartir les actions là, au niveau de leurs deux organisations. Vous avez vu, là, on a fait quand même un petit plan d'action résumé là, pour justement, vous avez le plan d'action détaillé, mais vous avez quand même le résumé là, des actions territoriales qui sont proposées par le comité. Je siège ponctuellement là, à ce comité-là, justement pour m'assurer qu'on réponde aux exigences et que le plan d'action suit son cours, étant donné que c'est quand même un montant d'argent là, important qui est mis, là, le 90 516 qui provient de l'enveloppe qu'on a reçue au niveau du ministère des Affaires municipales. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Mais je vous dirais, là, principalement, les actions, ils vont être vraiment réalisées dans les écoles, surtout au niveau secondaire, dans nos écoles secondaires qui se retrouvent sur notre territoire.
Je propose. Je vais l'appuyer, Christian.
Christian?
C'est un très beau projet, hein?
Oui, absolument.
Moi, je vous félicite là, parce que il y a tout un partenariat avec ça. Là, c'est vraiment bien.
Merci. 9.8, FRR, projets locaux. Annick, toujours?
Donc, FRR, projet local, donc c'est un projet qui nous a été déposé par la municipalité de Saint-Raphaël en lien avec la réfection des bandes de leur patinoire.
Excepté quatre parts.
Donc, j'aurais besoin d'une proposition.
Sébastien propose.
Second. Oui. David, second.
Redistribution, ouais. Vas-y.
Donc, je vais enchaîner avec le prochain point. Donc, vous avez vu là, au niveau de notre 16e redistribution, au niveau de notre parc éolien communautaire. Donc, ce qui nous permet là, d'avoir au niveau de notre enveloppe régionale un montant de 29 699 et un montant de 2227,44 qui sera versé à chacune de vos municipalités. Et c'est pour la période là, du 1er juillet au 30 septembre. Ensuite, le prochain point est en lien avec la redistribution au niveau des carrières et sablières. Donc, vous avez le tableau là, au niveau du versement. Donc, c'est pour la période du 1er janvier au 30 juin. Donc, vous avez l'ensemble des montants là, qui sera redistribué à chacune de vos municipalités.
C'est un dépôt?
C'est un dépôt.
Or, je demanderai, on passera au point CIM, demande de modification de contrat. On en a parlé lors de la séance de préparation de budget. Vous avez une résolution qui vous est déposée et je demanderai à Nick d'en faire la lecture pour au bénéfice aussi des contribuables qui nous écoutent. Alors, vas-y, Annick.
Donc, résolution. Donc, attendu qu'un contrat entre la MRC de Bellechasse, qui est l'intervenante, la Corporation informatique de Bellechasse, qui est le vendeur, et la coopérative d'informatique municipale, qui est l'acheteur, a été conclu en 2016 par l'achat-vente des actifs de la Corporation informatique de Bellechasse. Attendu que dans ce contrat, les éléments d'actifs ont été acquis par la coopérative d'informatique municipale pour un coût total de 1 084 364 finançable comme suit. La partie du prix de vente constituée d'un montant de 884 364 est payable en versements égaux et consécutifs répartis sur une période maximale de 5 ans, le premier versement étant dû au 5e anniversaire de la date de clôture de la transaction, soit en 2022. La partie du prix de vente constituée d'un montant de 200 000 est payable à raison de 50 000 comptant à la clôture de la transaction et 30 000 par année à la date anniversaire de la transaction, et ce jusqu'à paiement complet, c'est-à-dire en une période de 5 ans, soit en 2022. Le total du prix de vente porte intérêt au taux préférentiel plus 1 %. Attendu que selon la coopérative d'informatique municipale, les coûts de programmation du logiciel initialement prévu en évaluation foncière ont été largement sous-estimés. Attendu que pour être en mesure de continuer à développer le logiciel d'évaluation foncière et commencer à développer le nouveau logiciel de gestion financière, les besoins en liquidité sont grands. Attendu qu'une des propositions soumises par la coopérative d'informatique municipale au conseil de la MRC permettant de conserver ses liquidités et de reporter de 5 ans le début du remboursement capital qui était prévu en 2022 du prêt de 884 364 en n'y versant que les intérêts. En conséquence, que le conseil de la MRC accepte de revoir la clause de remboursement du prêt de 884 364 selon les modalités suivantes. Une première partie du prêt de 884 364 est payable en versements égaux et consécutifs de 50 000 sur une période de 5 ans, laissant un solde de 634 364 à la fin de cette première période. Le solde de 634 364 payable à la fin de la première période de 5 ans est remboursable en versements égaux et consécutifs pour une période supplémentaire de 5 ans. Et le solde du prêt au cours de cette période supplémentaire de 10 ans portera intérêt au taux préférentiel plus 1 %, comme l'entente initiale.
Or, vous vous rappelez, on avait fait la discussion, il y avait une orientation de donner suite de cette façon-là, donc d'autoriser une prolongation de 5 ans sur le remboursement du capital de 884 000 et avec un versement, par contre, de 50 000 $ par année sur ce montant-là. J'ai contacté M. Lepage parce que dans sa demande, il demandait carrément de reporter sans paiement. Or, je lui ai fait part de l'orientation du conseil et il accepterait notre demande, soit de nous rembourser le montant à raison de 50 000 pendant les 5 prochaines années et le solde du montant de 634 000 à partir du 5e anniversaire à raison de 126 873 avec un taux d'intérêt préférentiel. Oui?
Non, c'est ça, avec les intérêts.
Avec les intérêts. Éric?
Oui, moi, je veux juste revenir avec une des... à la conclusion numéro un, là, on en a parlé effectivement, la première partie du prêt, 50 000 par année sur une période de 5 ans. Est-ce qu'il serait approprié de dire que cette chose-là, c'est, elle n'est non négociable pour pas que dans 3 ans, avec un nouveau conseil des maires qui revienne, dire « bon, on est encore dans le pépin ». J'accepte le principe de base, là, on en a discuté largement, j'ai eu le temps de réfléchir, mais est-ce qu'on devrait... préciser, c'est une suggestion de dire que la première tranche là, de 200 000, finalement, là, c'est ça? Oui, c'est 250 à peu près, là, mais 200, c'est non négociable. Tu sais que 200, là,
225.
Ouais, c'est non négociable.
Ben, c'est pas... ça sera non négociable parce que sur ce quoi je me suis entendu, et c'est M. Lepage qui l'a aussi proposé, pour donner suite à ça, il faut faire une modification de notre contrat qu'on a actuellement. Et il va être mis dans le contrat. Fait qu'il va y avoir une clause du contrat qui dit que c'est pour les 5 prochaines années et on s'en va avec ça.
Donc, ce n'est pas nécessaire de dire que c'est non négociable le prochain 5 ans là,
contrat. Ça va être dûment inscrit dans le contrat modifié. C'est un amendement au contrat. Parce que le premier contrat, ils ne sont jamais venus pour renégocier l'entente. C'est à la fin du 5 ans où là, ils sont venus. Fait que si jamais ils voulaient regarder quelque chose, ça serait à la fin du 5 ans. Et là, je pense que ça va être mis dans le contrat. Mais comme on le fait, de statuer qu'on n'y reviendra pas, ça va être les élus du temps qui prendront la décision. Mais là, moi, je pense que dans 5 ans, le développement sera fait. Ils seront rendus justement à vendre les logiciels. Donc, ils seront en capacité de nous rembourser les montants tels que dus. Alors, si vous êtes d'accord, qui serait pour ou est-ce qu'il y en a qui sont contre la proposition?
J'ai une petite question avant.
Oui.
Ça, c'est la proposition. C'est la proposition que la MRC fait au conseil d'administration de CIM. Mais il faut que ça soit entériné par le conseil d'administration de CIM. Il faut en être conscient.
On s'entend là-dessus. Moi, j'ai juste l'accord de M. Lepage qui va le soumettre au conseil d'administration.
Exact.
Mais nous, voici nos conditions. Si le conseil ne l'accepte pas, bien, vous connaissez les conditions actuelles qui nous lient par contrat.
Puis, Annie, vous avez préparé un petit budget de caisse pour voir justement c'est quoi les impacts. On l'a-tu eu, ça, par courriel?
Non, je ne vous l'ai pas transmis. J'ai oublié, là.
Mais ce serait bon. On voit vraiment l'impact. On va chercher 100 000 de plus d'intérêt, là. Puis, on continue pareil, là, à avoir des encaissements réguliers année par année, là. Mais ce serait bon que tu nous envoies le petit tableau.
Je vais le partager à l'écran.
Oui.
Que ça nous rapporte en intérêt.
Ouais. Donc, vous voyez, là, dans le fond, dans le scénario initial, là, en bout de ligne. Bon, j'ai de la misère avec mon Excel. Là. Donc, dans le scénario initial, là, au total, là, à la fin de l'année 2026, là, donc, ce qui était prévu initialement, donc, c'est un total d'intérêts payés là, pour la MRC là, de 270 241 et 3 $ et dans le nouveau scénario proposé qui nous amène avec une fin du remboursement au 31 décembre 2031. Donc, c'est des intérêts payés. Là. Dans le fond, c'est un revenu pour la MRC de 374 378,36 ce qui nous amène avec un écart entre les deux scénarios là, de 104 137,33 mais dans l'hypothèse là, où le taux préférentiel là, se maintient à 2,45 pour les prochaines années. Donc, j'ai dû émettre certaines hypothèses, mais voilà, là, ça nous donne là, un gain supplémentaire au niveau des intérêts qui seront perçus par la MRC de 104 137,33.
Ça a-t-il été proposé?
Donc, on serait rendu à qui propose, puis après ça, si le vote est demandé, qui propose la résolution?
Denis?
Oui.
Qui seconde?
Yves Turgeon.
Yves Turgeon. Est-ce qu'il y en a qui sont contre la résolution? Adopté unanimement.
On s'engage à la faire passer au niveau du CIM.
On compte sur Martin et Germain.
Un engagement enregistré en plus. Là.
La balle est aussi dans leur camp. Alors, on est rendu à Réseau Action Entreprise. On a dit qu'on le reportait pour avoir la position régionale et aussi afin de recevoir la convention ou l'entente qu'on nous propose relativement à Action Entreprise et le versement de 200 000 à chacun de nos CLD pour l'embauche de ressources. Donc, on le reporte. Point 10, sécurité incendie, équipe spécialisée, Ville de Lévis. On passe la parole à Dominique. On pensait qu'il dormait, mais non.
Bonjour à tous. Un petit peu de logistique, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Donc, dans l'envoi, on vous a mis là, la recommandation du comité de sécurité incendie 1909-004. Qu'est-ce qu'on veut dire par équipe spécialisée? On parle des interventions là, dans des terrains accidentés, dans des espaces clos, des interventions en hauteur ou des interventions avec des matières dangereuses. Sachez que dans Bellechasse, ces cas-là sont relativement rares, mais il y en a de plus en plus. En ce moment, nos pompiers n'ont pas les équipements spécialisés pour intervenir dans ces situations-là. Il y a des démarches qui ont été faites avec la Ville de Lévis pour voir s'ils pouvaient peut-être intervenir ou nous donner un coup de main quand il y a des besoins. Puis, on est en comparaison pour évaluer la possibilité aussi de s'équiper, autant avec des équipements qu'avec de la formation. Donc, pour être en mesure de prendre une décision éclairée, ce qu'on aimerait, c'est comparer les deux options avec la Ville de Lévis, combien ça coûterait, puis ça serait quoi le délai d'intervention. Donc, la résolution du comité de sécurité incendie qui vous est faite, c'est d'officialiser les démarches qu'on fait avec la Ville de Lévis par écrit sous forme de résolution, parce qu'en ce moment, on a plus des échanges verbaux, puis on n'a pas nécessairement eu d'informations concrètes à ce jour. Donc, c'est la proposition qui vous est faite d'adopter une résolution pour demander une réponse écrite pour obtenir de l'information supplémentaire pour les coûts potentiels du service puis les délais qui seraient possibles pour intervenir sur notre territoire. Je sais qu'Éric, tu as une question.
Oui, j'ai une question. Dans la conclusion, finalement, on va adopter la résolution là, qui a été adoptée par le comité incendie. Là, mais quand on parle que la MRC fasse parvenir par écrit sa demande à M. La Durantais, qui va le faire? Dans quel délai? C'est bien beau de le mettre dans la résolution, là, mais j'aimerais savoir qui. C'est qui? Est-ce que c'est toi comme DGA ou bien c'est M. C'est malaisant c'est une question que je pose comme ça?
C'est une bonne question. Moi, je vous proposerais le conseiller en sécurité incendie de la MRC qui est M. Malaison. C'est certain que le délai, faudrait leur donner un temps relativement peut-être l'équivalent d'un mois, là, au moins pour que la prochaine séance de conseil, qu'on puisse avoir un retour pour ne pas laisser les choses aller. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Ben moi, je m'attendrais à ce qu'on sache si monsieur a fait la lettre et l'a transmise à Lévis à la prochaine séance du conseil.
Vous aimeriez avoir un projet de résolution?
Ben non, on aimerait faire du suivi, là, parce que adopter une résolution et que la lettre soit envoyée au mois d'avril prochain, je ne suis pas intéressé. Tu comprends? Est-ce que je suis assez clair, là? Si on donne le mandat d'arriver de communiquer avec Lévis, il faudrait s'attendre à un suivi et que la lettre soit faite.
Oui, mais avant de soumettre la lettre, excuse David,
oui.
Il fallait s'entendre si on était d'accord, nous, à soumettre
une telle lettre.
Fait qu'à partir de ce soir, on s'attend, puis de ce que nous dit notre DGA, c'est de dire que ça sera Steve qui enverra une lettre officielle à la Ville de Lévis pour formuler la demande, mais on s'entend que ça va être très rapide à partir de la décision de ce soir. Ça vous va?
Steve, c'est au nom de la MRC et non pas au niveau du comité de
non, sécurité. Non, non, il va signer au nom de la MRC.
OK.
Parce que c'est à partir de ce soir, c'est une décision de la MRC. C'est ça. C'est beau. Mais là, voulez-vous une résolution? On refait. OK. On repasserait, là, ce qu'Annick nous dit, c'est qu'on repasserait la même résolution que le comité. Donc, on fait nôtre la résolution du comité.
Question.
C'est beau?
Oui,
Christian.
On peut-tu, j'aimerais bien parler, là, ça fait quatre. Est-ce que le conseil de Lévis sont d'accord? Oh, ben, on a juste parlé au chef pompier.
David, il faudrait leur demander à savoir s'ils sont d'accord.
C'est ça, là.
C'est ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on passe une résolution pour leur demander. Quand vous êtes d'accord, on a passé la résolution, il y avait-il une proposition? Qui propose la résolution? Christian Lacasse, qui se gagne?
Bon, Jean-Yves.
Jean-Yves ou Manon? Jean-Yves, c'est beau. Incendie, tu en as encore?
Ouais, oui, je continue. Donc, le point suivant, vous avez vu l'échéancier du rapport annuel. Comme l'année passée, là, ce qu'on veut faire, c'est s'engager à respecter là, la loi sur les incendies qui nous demande de préparer un rapport annuel en sécurité incendie pour le territoire de Bellechasse. On vous présente plus un dépôt de documents pour, dans le fond, vous donner l'information des différentes étapes qu'on doit suivre pour se rendre à l'envoi au ministère de la Sécurité publique le 31 mars 2020. Comme l'année passée, on va demander la collaboration des municipalités. Donc, c'est un échéancier aussi qu'on va déposer à la séance des DG de demain. Puis, on va vous demander là, une forme de collaboration là, pour s'assurer de recevoir les données, les intrants, pour être en mesure de comptabiliser puis préparer le rapport. Donc, c'est plus à titre d'information qu'on vous dépose ce document-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au document, à l'échéancier? Point 10.3. Dans le fond, on vous a déposé là, une résolution là, qui a été adoptée par la MRC de Témiscamingue. C'est en lien là, avec la possibilité d'offrir de la formation en ligne pour les pompiers. Donc, ils font appel à l'ensemble des MRC si c'est une résolution qu'on peut adopter pour les appuyer. C'est le genre de choses qui fait partie du virage technologique là, d'offrir des formations en ligne par l'École nationale des pompiers. Donc, nous, on vous recommande d'adopter cette résolution pour les appuyer parce que c'est quelque chose qui pourrait facilement nous rejoindre là, puis de pouvoir profiter de services en ligne de ce type-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Monsieur Tessier, vous avez une question
avant. Là. Je vois que dans leur résolution, il y a une recommandation du CSI. Là. Nous autres, ça n'a pas passé au CSI. Donc, tu veux qu'on adopte une résolution sans recommandation du CSI?
En fait, je relancerai la question. Désirez-vous? Je vous dirais, je ne voyais pas la nécessité d'attendre en janvier pour passer par le comité sécurité incendie. Puis c'était strictement dans une façon d'appuyer une autre MRC. Mais si vous désirez, moi, j'ai aucune objection à attendre au mois de janvier de pouvoir en discuter. Là. C'était quelque chose qu'on considérait qu'il n'y avait pas nécessairement un gros engagement de notre part. Mais c'était juste dans le but d'accélérer le dossier. Ce n'était pas pour nous mettre à l'écart. Là.
Je voudrais juste demander aux autres membres du CSI, Bernard puis Manon, peut-être ce qu'ils en pensent.
Ben moi, comme Dominique vient de dire, je pense que oui, il faut faire attention là, tout ce qui peut relever du CSI. Là, dans ce cas-ci, ben dans le fond, Dominique, ce que tu apportes, je pense qu'on est rendu là. Si moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on le dépose. On va voir un peu par la réponse des maires aussi. Là. Au niveau de l'engagement, au niveau de la portée, pour ce moment-là, je ne vois pas d'objection.
Moi non plus de ma part, de mon côté.
Ce que je pourrais faire suite aux commentaires de M. Tessier, Dans des cas comme ça où il y a un gain de rapidité puis qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, ce que je pourrais faire, c'est peut-être l'envoi d'un courriel au comité avant de faire ce genre de choses-là cavalièrement en séance de conseil. Donc, je pourrais juste vous garder dans la boucle pour être sûr qu'on n'arrive pas devant le fait accompli.
Est-ce que ça vous va, M. Tétu? T'es pardonné. Pardon? T'es pardonné.
Merci.
Ton position?
Éric.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Éric. Appuyé
Sébastien.
Par...
Sébastien.
Merci, Sébastien.
On est rendu à Varia, deux dépôts de documents. Le 12.1, c'est le rapport d'étape du projet Passerelle, donc vous en prendrez connaissance. Et 12.2, c'est le rapport final du comité Avenir des Églises, aussi, qui vous est déposé à titre d'information. Éric, question?
Oui, bien, je suis content. Je remercie Annick d'avoir pu mettre le dossier là, comme dépôt là, concernant l'avenir des églises. C'est un engagement personnel que j'avais fait aux membres du comité de que le document soit déposé à la table du conseil dans le plus bref délai. Sarteau était présent au comité aussi, donc mille merci. J'incite mes confrères et consœurs de lire le document et je remercie aussi Claude Lepage. Je remercie aussi au nom de tout le monde l'apport de Nicolas Godbout qui a fait un travail assez impressionnant. Donc, un sincère merci. Je les remercie au nom des autres maires et mairesses aussi. Et mon commentaire personnel, puis Sarto était sur le comité aussi pour le faire. Je vous rappelle que nous sommes toutes des municipalités laïques. Et je vous dirais qu'il faut peut-être laisser la poussière retomber quelques années, en tout cas quelques mois avant de donner suite en tant que MRC. Alors, c'est tout. Alors, un grand merci.
Question. Après ça, David.
Oui. Ben, c'est à propos justement du rapport sur le patrimoine religieux. Là. Je vais être plate un peu, là. On fait référence à deux, trois places là, dans le rapport. Nous, c'est l'église Saint-Philippe-Saint-Jacques. Là. C'est pas toujours identifié Saint-Vallier. Là. Mais j'ai une question. Là, j'imagine que c'est Nicolas Godbout qui a écrit le rapport. C'est qui a consulté pour... lorsqu'il parle de notre église là, ou du développement du projet, là, parce que j'ai vérifié, moi, je n'ai pas été consulté, puis j'ai vérifié à la municipalité, puis il n'y a pas eu de consultation non plus. Puis ce qui est écrit dans le rapport, en ce qui nous concerne, là, c'est pas véridique. Là. Fait que je pense que ça demanderait de certaines corrections. Là.
On prend bonne note, on va soumettre ça, puis le comité pourra regarder si jamais, de voir premièrement qui a été consulté, puis pourquoi on en arrive à certaines conclusions que tu nous sembles dire qui ne sont pas tout à fait exactes. On va valider ça. Oui, ouais. Bernard?
Mais, tu sais, dans le rapport, dans le tableau des municipalités, là, il faut bien vérifier les noms qui sont écrits là parce que chez nous, ce n'est pas Saint-Léon-le-Grand, là, c'est Saint-Léon-le-Standard. Et tu regardes, mettons, Saint-Gervais et Poitras.
Et Poitras, oui. Mais ça, est-ce que c'est le nom des églises? Il faut faire attention. C'est le nom des églises. Est-ce que ton église, c'est Saint-Léon-le-Grand? Es-tu sûr, Bernard, que... Ah, OK.
Ouais, c'est valide ça.
C'est comme nous, Saint-Gervais et Protais, je me rappelle que la municipalité s'appelait le même avant. Et il doit y avoir un lien, là. Le Protais, il doit être à quelque part.
C'est possible. C'est possible.
Non, mais Bernard,
c'est pas attention. Saint-Gervais et Préfet, là. C'est pas ça.
On est dans le religieux pas mal, là, alors que nous, on est dans le monde administratif. Alors oui, il y a parfois des discordances, mais... Christian, là, si tu veux, je t'invite à partager avec Claude Lepage là, les incohérences ou en fait le questionnement tout le moins. Là, je pense que ça serait très intéressant. Le comité probablement se reparlera dans 18 mois, là, pas avant. Là. Alors, mais d'ici là, au moins, c'est un document de consultation. Donc, se décoquer, ce serait bon de les corriger.
Oui. Alors, on se donne ça, on se dit ça que si jamais vous voulez apporter certaines corrections, ça sera validé et les corrections seront amenées pour avoir une version là, qui correspond à la réalité du milieu. Oui, Manon?
Moi, en fait, c'est une inquiétude que je veux partager. Je n'ai pas pris connaissance là, totalement du rapport. Là. Sauf que la réalité chez nous, c'est que les élus qui ont siégé là-dessus, on avait deux délégués, là, puis ce qui m'a été rapporté, c'est que là, en ayant plus Nicolas qui animait les comités, je ne sais pas si c'est juste localement chez nous que cette inquiétude-là, mais c'est qu'il y a du travail qui a été fait là, de réflexion, de mobiliser des équipes. Et puis, nous autres, l'inquiétude qu'il y a chez nous, c'est que en n'ayant plus d'animateurs, en n'ayant plus de ressources pour poursuivre cette réflexion-là, parce qu'on sait que c'est quand même des grandes réflexions. Puis c'est sûr que localement, chez nous, ça a été long aussi avant de mettre en place un comité. Donc, il y a été une période où est-ce qu'il y avait des ressources, mais pas de gens mobilisés pour ça. Puis là, ben là, les gens sont mobilisés, puis là, pouf, là, on n'a plus ce support-là. Alors, moi, je veux juste savoir si c'est définitif, ça, l'absence de support, parce que là, Nicolas, son contrat est terminé, c'est ce qu'on m'a expliqué, là. Je ne siège pas moi-même sur ce comité-là. Comme je viens de le dire, il y a deux élus qui sont délégués du conseil pour siéger dessus. Mais c'est ça qu'on m'a rapporté. Alors,
Maintenant, on va te répondre là-dessus. Annick a une petite précision, parce qu'on avait pris une orientation au conseil par rapport à ça.
D'accord.
Comme dans le fond, au départ, là, le projet en lien avec le patrimoine religieux, c'était un projet qui avait été déposé là, au FDT dans la partie régionale. Donc, il y a eu un certain montant qui a été octroyé. Donc, ça a été une fin là, de cette première entente-là. Il y avait eu une entente pour la prolongation là, pour justement continuer à soutenir les différents comités qui étaient en démarrage, puis amener là, les comités là, vers l'indépendance, appelons-le comme ça. Donc, il y avait eu un montant supplémentaire qui avait été investi autant par la Fondation Beati que par la MRC. Mais là, on avait prolongé ces délais-là pour un 6 mois supplémentaire. Mais là, dans le fond, il y avait une orientation qui avait été prise par le conseil là, de justement de se limiter à un 6 mois. Donc, les montants qui ont été octroyés là, dans le cadre de ce projet-là là, sont terminés. Là. Okay. Je crois que M. Tété avait une précision également à apporter là, par rapport à ça.
Je pense que j'ai compris qu'il était terminé. Ça, je l'avais assez bien compris. Sauf que je voulais juste savoir, présentement, est-ce que toutes les municipalités ont atteint cette autonomie-là? C'est ça que je veux savoir. Puis si c'est non, la réponse, puis on est plusieurs, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a moyen de, par quelque moyen que ce soit, là, je ne sais pas lequel, là, mais est-ce que si je suis toute seule, pas de problème? Mais si des municipalités, parce que je regardais le tableau synthèse, là, puis il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas de projet concret encore en route. Là. C'est pour ça que je soulève cette question-là.
C'est bon, elle est soulevée, Éric.
Ben, écoute, Manon, je dois t'avouer qu'au cours des deux dernières années et demie, ça a été des sujets de discussion assez intenses. Je pense qu'il faut se ramener au mandat que la municipalité, que la MRC s'est donné. C'était de donner des outils de travail pour les municipalités pour pouvoir, en tant qu'administrateur municipal, avoir une réflexion. Là, il faut faire attention, est-ce qu'on est le porte-parole des fabriques ou sommes-nous des administrateurs municipaux? Bien, malheureusement, nous sommes des administrateurs municipaux, puis il y a une partie qui revient au milieu. Je pense qu'en tant que MRC, on a fourni un effort considérable pour fournir à chacune des municipalités qui ont 20 réalités différentes des outils de réflexion et chaque municipalité aura elle-même sa propre démarche à faire si elle veut supporter. Mais que la MRC commence à arriver puis à investir davantage comme support à des initiatives locales, là, par exemple, je pense qu'on perd de vue le mandat qu'on s'était donné, le mandat du comité. Puis je rappelle, on est laïque, là. Je pense qu'il faut faire attention, la ligne est mince. C'est des dossiers qui sont très émotifs, mais je pense que le rapport d'un Nicolas qui fait référence au site Internet en passant, là, ça c'est un rapport, mais il y a le site Internet qui est très intéressant, puis il y a d'autres outils qui sont déjà existants. On n'a pas inventé le bouton à quatre trous là-dedans, là, mais on n'a pas copié. Mais il faut faire attention, il faut vraiment mettre notre chapeau d'administrateur municipal. Mais moi, je pense qu'à la MRC, je pense que le mandat qu'on s'était donné, il est fait, il est complet. Puis dans 18 mois, le temps que la poussière se retombe, le temps que l'archevêché, le diocèse, se positionne aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui risque de couler. Je comprends ton inquiétude, là, mais il y a une couleur qui est très locale, que la couleur de Saint-Gervais n'est pas la même à Saint-Michel, qui n'est pas la même à Saint-Néry, qui n'est pas la même à Saint-Nazaire. Alors là, on ne peut pas arriver tapissé de bord en bord. Là.
Je voudrais intervenir, Yves Turgeon. Alors, moi, je suis d'avis avec... en tout cas, moi, j'ai participé au comité. C'est moi qui ai demandé à la municipalité, justement, de former un comité d'élus, de citoyens, et puis pour réfléchir sur l'avenir, non pas de lieu de culte, mais d'un patrimoine bâti. Un patrimoine religieux, certes, mais un patrimoine bâti. Puis ça, c'est très laïque parce que c'est notre patrimoine, c'est un paysage, hein? Il faut le voir comme ça, là. C'est un héritage, oui, mais pas de tradition religieuse comme un élément de fierté au cœur d'un village. Et tout ça, de voir la reconvertir un bâtiment au centre du village comme ça, c'est une réflexion qu'on est tous tenus, on est tous obligés de le faire ces temps-ci. Et c'est vrai, Eric, ce que tu dis, qu'on devait, et M. Nicolas Godbout devait nous donner des outils. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on a absolument besoin d'un animateur de milieu, d'un agent de développement comme outil pour aider les milieux justement à cheminer là-dedans. On est vraiment au début, et Dieu sait que c'est difficile de reconvertir des bâtiments comme ça. Je pense qu'on doit... je pense que la municipalité, pas la municipalité, mais la MRC pourrait avoir offrir un soutien plus longtemps pour nos milieux.
On a déjà fait cette discussion-là, mais on va laisser la parole à Guylaine qui veut intervenir. Pascal?
Je pense qu'il y a Pascal avant moi, si tu veux y aller, Pascal.
Vas-y donc, Pascal. Oui?
Dans le fond, c'est juste que si des municipalités qui désirent avoir une ressource, là, et n'empêche les municipalités de se la payer entre eux autres, là, de se partager des ressources, ça se fait. Là, comme nous autres, ben, c'est pas le même exemple, comme ça devient d'autres, on partage quelqu'un pour l'eau potable. Ben, mais quelqu'un pour le patrimoine entre 4, 5, 6, 7 municipalités qui veulent, qui ont besoin de ressources.
Guylaine?
Ben, c'est un peu dans le même sens. De un, je voulais exprimer que ça reste une préoccupation chez nous, puis que c'est davantage en termes de soutien puis d'accompagnement, d'initiative, d'un rôle de municipalité, mais encore plus de citoyens engagés, puis autant dans l'aspect patrimonial, là, tout autant, on fait vraiment la ligne entre le lieu de culte et l'édifice, le bâtiment, puis le cœur du village. Puis là-dessus, ben, peut-être que c'était l'idée que j'avais aussi là, de dire, nous, on se met en mode un peu recherche, comment être accompagné là-dedans. Peut-être que l'idée pourra être de voir à quelques municipalités, là, tout le monde n'est pas au même point, puis concerné de la même façon. Là, je le sens bien, là, mais en tout cas, c'était pour exprimer là, quand Manon, tu faisais un appel à tous, à savoir là, comment on voit la continuité de ce travail d'engagement-là, où on a quand même des gens de la communauté là, intéressés à se questionner puis à avancer dans ces réflexions-là. Donc, on pourra s'en reparler.
Oui, merci. Donc, je vous résume, je vous rappelle que l'objectif du premier mandat qu'on avait donné à nos gens, c'était de nous outiller pour faire une réflexion. La plupart l'ont fait. Il y en a même qui sont rendus assez loin dans leur réflexion. Puis moi, je me rappelle quand l'orientation a été prise de dire, bien, maintenant, c'est du ressort des municipalités. Chacune doit prendre ses décisions ou ses orientations. S'il y a beaucoup d'orientations qui se ressemblent, comme on vient de le dire, les municipalités pourront se partager des ressources pour aller plus loin. Mais moi, ce que je peux faire de l'Église chez nous, ce que Saint-Gervais peut faire de l'Église chez eux, on ne peut pas avoir des projets communs partout de la même façon. Donc, il y a une réflexion à faire par municipalité. Il y en a des municipalités, puis je suis pas mal sûr que si on posait la question,
qui ne se posent même pas la question de dire on fait une nouvelle affectation. L'Église, c'est l'Église, c'est un lieu de culte. Puis pour certains, il y a une fréquentation qui justifie de garder l'Église comme lieu de culte. Ça aussi, c'est une décision de certaines municipalités. Alors, tout ça pour vous dire qu'on pourra y revenir, mais là, il y a peut-être une réflexion à faire dans chacune de vos municipalités, de dire est-ce que de quelle façon on continue ce dossier-là, est-ce qu'on peut le continuer? Parce que moi, comme je vous le disais tantôt, il y en a qui sont rendus assez loin et que leur décision, leur orientation pour le futur est déjà prise. Alors, on aurait fait le tour, si vous êtes d'accord, avec l'ordre du jour. Alors, ça prendrait une proposition pour lever l'Assemblée.
Martin J.
Second.
Alors, merci et bonsoir tout le monde.
Bonne journée.
Éric, n'oublie pas de m'appeler.
Salut tout le monde.
Éric, n'oublie pas de m'appeler.
Bonsoir.
T'es pas mis